France Culture.
Bonjour à tous. Une tentative d'apaisement au Venezuela, c'est ce que souhaite opérer la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Sous pression des États-Unis, elle annonce une amnistie générale et la fermeture d'une grande prison politique dans la capitale. Les violences dans le périscolaire sont systémiques, alors que les révélations se multiplient ces dernières semaines. La défenseure des enfants de la ville de Paris, Dominique Versigny, a reçu pas moins de 150 saisines depuis mi-décembre. Quand une piñata représentant une voiture de police donne lieu à une enquête, cela se passe à Mulhouse, où la performance d'étudiants en art n'est pas du tout du goût des autorités. Enfin, nous irons à Limoges, où la colère des centrains se fait entendre à l'occasion d'une manifestation interrégionale d'usagers et de comités de défense du ferroviaire. Notre invité est Loïc Gail, coprésident de l'association Bob Seal. Moins d'un mois après l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro par l'armée américaine, la présidente par intérim Delcy Rodriguez annonce donc une amnistie générale au Venezuela, où des centaines d'opposants politiques ont été emprisonnés depuis 1999. Soucieuse de réparer les blessures laissées par la confrontation politique, a-t-elle lancé hier devant la Cour suprême de justice, Delcy Rodriguez a également annoncé la fermeture de la tant redoutée prison de l'Hélicoïde à Caracas. Eric Bigala.
Oui, c'est un véritable symbole, cette hélicoïde, sorte de pyramide ronde en coquille d'escargot géante plantée au milieu de Caracas. Ce devait être, dès sa construction dans les années 50, un centre commercial géant où l'on aurait circulé en voiture sur une spirale de 4 km de long. Le centre commercial n'a jamais vu le jour. L'hélicoïde a accueilli les sans-abri des années 70 avant d'être transformé en centre de détention par le régime chaviste dans les années 90. Une prison où se pratiquait allègrement la torture, dénonçait en 2022 un rapport des Nations Unies. Delcy Rodriguez a précisé dans son allocution d'hier soir que le bâtiment serait transformé en centre social, sportif et culturel dans la foulée de son annonce d'une loi d'amnistie générale qui sera présentée en urgence au Parlement. Les prisonniers politiques du régime de Maduro se comptent encore en centaines, autour de 700 selon une ONG de défense des droits humains. 300 ont été libérés ces dernières semaines au compte-gouttes, des libérations conditionnelles, les charges pesant sur ces anciens détenus n'ayant pas été levées. Une loi d'amnistie générale devrait y mettre bon ordre. Parmi les personnes encore détenues figurent des proches de l'opposante et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, comme son avocat, un ancien gouverneur de région ou un parlementaire d'opposition. Plusieurs journalistes ou membres des services de sécurité réfractaires au régime sont toujours également sous les verrous, souvent poursuivis pour terrorisme ou trahison. Ils devraient eux aussi pouvoir bénéficier de cette loi d'amnistie.
Eric Bigala, rédaction internationale de Radio France. Les forces armées iraniennes sont en état d'alerte maximale, prévient ce matin Téhéran. Le chef de l'armée iranienne met en garde les États-Unis et Israël contre toute attaque, alors que d'importants moyens militaires américains sont déployés dans le golfe Persique et notamment le porte-avions nucléaire, l'USS Abraham Lincoln. Les signalements pour des violences dans le périscolaire s'accumulent. Dans les 620 écoles de la capitale, la défenseure des enfants de la ville de Paris, Dominique Versigny, a ainsi reçu 150 saisines depuis sa nomination mi-décembre. Bonjour Olivier Vogel.
Bonjour Julie Paco.
Après les premières révélations à l'automne dernier de violences physiques, de violences sexuelles aussi commises par des animateurs et animatrices, de nombreux parents d'élèves ont donc contacté Dominique Versigny.
C'est à la mi-décembre qu'elle a été nommée défenseure des enfants de la ville de Paris, un poste inédit à l'échelle locale, créé à la suite des révélations de ces violences dans le périscolaire. Depuis sa prise de fonction, la défenseure a reçu, vous l'avez dit, pas moins de 150 saisines de parents d'élèves inquiets. Au micro de nos confrères de France Info, elle a aussi évoqué une parole qui se libère dans un contexte de violence systémique.
Il y a eu les études de la Civise, il y a eu les études sur l'Église. On le sait, c'est systémique. Et en même temps, c'est dans un continuum. Violence physique, violence psychologique, violence sexuelle. Et ça, c'est ce qui existe depuis la nuit des temps. Mais on n'en parle que depuis que des gens courageux, des adultes, ont dénoncé ce qui leur est arrivé dans tous les milieux. Et les enfants, c'est nouveau. Ce sont des enfants qui arrivent à dire des mots, à expliquer ce qui leur est arrivé, et des tout petits. Et nous, les croyons.
La défenseure des enfants de la ville de Paris a également reconnu que les méthodes de recrutement dans le périscolaire devaient être améliorées.
C'est pas parce que quelqu'un n'a pas de casier judiciaire et n'est pas sur le fichier des gens qui ont commis des agressions sexuelles qu'il est apte à exercer la fonction d'animateur. Une personne doit être recrutée pour ses qualités d'animation par des gens compétents, par des psychologues, parce qu'il y a aussi des violences sexuelles. Et là, seul un psychologue formé peut repérer un pédocriminel.
Dominique Versini est aussi en faveur d'un changement de la loi pour que les animateurs ou animatrices auteurs de comportements problématiques ne puissent pas être mutés dans une autre école comme cela aurait été le cas à Paris.
Olivier Vogel, et après la diffusion de l'enquête jeudi soir de Cache Investigation, eh bien la mairie de Paris a annoncé avoir lancé une enquête administrative et suspendu avec effet immédiat deux animatrices mises en cause dans ce reportage. Et le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a également annoncé procéder à plusieurs signalements à la justice. Il réclame un sursaut des citoyens face à des moyens insuffisants et une délinquance qui augmente. Le syndicat de police Alliance, majoritaire chez les gardiens de la paix, appelle à manifester dans une vingtaine de villes du pays aujourd'hui. Car faute de moyens, la police nationale est en danger, estime-t-il. Et ce, malgré une augmentation du budget de 100 millions d'euros, d'après le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Un appel à la mobilisation citoyenne qui intervient alors que les élections professionnelles dans la police sont prévues à la fin de l'année. Raison pour laquelle Laurent Nunez a d'ailleurs refusé de participer à cette mobilisation. Mais le ministre de l'Intérieur se tient bien aux côtés des policiers. Il annonce d'ailleurs saisir la justice après une performance artistique au message anti-police qui s'est tenu dans une école d'art de Mulhouse jeudi. Les étudiants de la Haute École des Arts du Rhin ont fabriqué une piñata, un objet en carton suspendu au plafond représentant un véhicule de police. Une piñata que deux étudiants frappent à coups de bâton. Les vidéos prises ce soir-là, abondamment relayées par l'extrême droite sur les réseaux sociaux, suscitent l'indignation du maire de Mulhouse, les syndicats de police aussi, et une enquête judiciaire a même été ouverte pour outrage aux forces de l'ordre. Patrick Janton.
L'art est-il libre? Peut-on tout dire, tout montrer? Les étudiants qui participaient à cette performance artistique n'y ont pas vu problème.
Notre école, elle est là pour tester des choses, c'est des expériences. D'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, de la société, justement des violences policières, et qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut les dénoncer. C'est vraiment un laboratoire pour essayer en toute liberté. Quand on regarde tous les posts qui sont faits sur les réseaux sociaux, c'est des posts politiques d'extrême droite et de droite récupérés. C'est pas ce à quoi devait servir ce truc.
Une élue mulhousienne était sur place, c'est elle qui a filmé la scène de la destruction de la voiture de police en carton, une forme de performance artistique qu'elle a jugée inadmissible. La mairie a réagi aussitôt pour dénoncer l'exercice. Nathalie Motte, adjointe au maire et présidente du conseil d'administration de l'école.
C'est une forme d'interpellation qui, au vu du contexte actuel politique, ce qui se passe aux États-Unis, etc., est déjà pour nous pas acceptable. Et vis-à-vis des forces de l'ordre qui sont là à nos côtés en permanence, les forces de l'ordre ont été aussi choquées de ce traitement, en tous les cas, de la vision qu'ont pu avoir les étudiants dans cette présentation, dans cette proposition artistique.
À l'ère du numérique et des réseaux sociaux, les réactions et les commentaires prennent une ampleur colossale. Ça peut nourrir la réflexion des futurs artistes en formation à la Haute École des Arts du Rhin.
Patrick Janton, ici Alsace pour France Culture. La colère des centrains gronde. C'est le nom d'un collectif rassemblant une trentaine d'associations qui se donnent rendez-vous à Limoges, en Haute-Vienne, cet après-midi. Des associations d'usagers et de défense du ferroviaire pour réclamer davantage de moyens pour les lignes TER. Bonjour Loïc Gail.
Bonjour.
Vous êtes coprésident de l'association Bobsil, l'association d'usagers qui participe à la manifestation cet après-midi. Bobsil, qui signifie donc Brive, Objat, Pompadour, Saint-Thierry, Limoges, une petite ligne de train d'une centaine de kilomètres qui est donc fermée depuis 2018. La faute aux désengagements de l'État et de la région, selon vous ?
Alors effectivement, la fermeture de cette ligne, mais c'est pas la seule, parce qu'en Limousin, il y en a une deuxième qui a fermé la même année. C'est le résultat en fait d'un manque d'investissement, mais dans le temps long en fait, sur le réseau ferré national et notamment alors aujourd'hui ce qu'on appelle les dessertes fines du territoire, les lignes de dessertes fines du territoire, les petites lignes pour parler plus simplement, et donc dans les territoires ruraux, ces lignes ferment progressivement l'une après les autres par un simple manque d'investissement sur l'infrastructure, les voies.
Alors, il y a la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Grand Est. Aucune région ne semble épargnée hein, par les fermetures de petites lignes. Les mobilisations citoyennes se multiplient partout en France d'ailleurs. Combien de petites lignes sont aujourd'hui menacées de fermeture définitive ?
Alors, en fait, au niveau de la France, je ne peux même pas vous le citer parce que tout ça est assez progressif. En Limousin, c'est à peu près la moitié du réseau qui est menacé à très court terme. Il y avait des travaux d'urgence qui étaient programmés par SNCF Réseau pour au moins les maintenir en état. On parle même pas de les moderniser, parce que bien souvent, elles accumulent un retard d'investissement, comme je l'expliquais, de nombreuses années. Et ces investissements, donc le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine avait programmé de les faire. Alors, sachant que ça, à l'origine, ça ne lui incombe pas. Le réseau ferré national, il appartient à l'État. Mais donc, le Conseil Régional avait prévu de faire cet investissement. Finalement, à renoncer à le faire, ce qui fait que demain, ces travaux qui étaient programmés par SNCF Réseau ne vont pas se faire. Potentiellement, ces lignes vont fermer l'une après l'autre.
Alors, il y a un chiffre que la SNCF donne, c'est 4000 km de lignes qui sont menacées aujourd'hui d'un effondrement de la qualité de service d'ici à la fin de la décennie. Comment on en est arrivé là ?
Ben, c'est des choix. En fait, on a un État français qui, globalement, depuis les années 50, a choisi d'investir dans le réseau routier. Il y a un investissement colossal qui a été fait sur les lignes à grande vitesse depuis les années 80. Donc ça, c'est l'arbre qui masque la forêt. Et le reste du réseau, ben, globalement, s'est dégradé, faute d'investissement. Les grandes lignes, entre guillemets, en ont moins pâti, mais ont quand même souffert de ce manque d'investissement, à l'image de ce qui se passe sur nous dans la région, la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, qui subit des retards de train jour après jour en permanence. Là, mais on peut penser aussi à la ligne Paris-Clermont-Ferrand. Mais donc ça, les trains roulent moins bien. Mais quand on va plus loin sur les petites lignes, là, ils roulent carrément plus. On se retrouve avec des lignes, par exemple, sur lesquelles les vitesses de circulation sont abaissées. On se retrouve parfois avec des lignes limitées à 40 km/h. Alors, vous imaginez un train qui roule à 40 km/h sur une partie de son parcours, il perd toute performance et toute utilité. Et donc ça c'est la conclusion, on est au bout du système. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que l'État reprenne en main ce sujet et réinvestisse dans ce réseau ferré, parce que sinon il va collapser, il va complètement tomber fermé progressivement.
Alors les associations d'usagers manifestent très fréquemment, mais c'est la première fois qu'un grand rassemblement interrégional est organisé. Pour quelles raisons ? C'est le budget 2026 qui a fédéré vos colères ?
Oui, mais tout à fait. Alors en fait, ce qui part, ce rassemblement, en fait, il s'est presque décidé il y a peu de temps finalement, lors d'une manifestation de notre association justement, pour où on réclame la réouverture de cette ligne de Limoges à Brive par Saint-Thierry, où d'autres associations étaient présentes et disent, bah, écoutez, nous c'est exactement la même chose qui se passe systématiquement quand on va voir un préfet, quand on va voir des élus, on nous dit, oui, bah, écoutez, nous c'est pas de notre sort, on peut pas, c'est pas nous, et en fait, c'est la faute à personne. Donc, toutes ces associations qui chacune défendent un territoire, une ligne, ont décidé de s'unir pour le dénoncer et pour que ce fait maintenant soit connu de la population, que les gens comprennent pourquoi leur train, demain, au lieu de mettre 30 minutes pour aller au travail, finalement, ils mettent 40 minutes, puis 45. Puis il n'y a plus de train. Et puis on nous dit, bon, ce sera un bus.
C'est entendu.
Limousin, depuis 2018, c'est quand même trois lignes qui ont fermé. Le Limousin, c'est pas très grand, c'est trois départements, la Corrèze, la Haute-Vienne et la Creuse. Trois lignes en 7 ans, c'est quand même beaucoup.
C'est entendu. Merci beaucoup, Loïc Gail. Je rappelle que vous êtes coprésident de l'association au Bobsil. Merci également à Louise Guérin pour la préparation de cet entretien. C'est un record de fréquentation pour les monuments nationaux, de l'Arc de Triomphe à la cité de Carcassonne. Près de 12 millions de visiteurs ont arpenté les monuments nationaux en 2025. Des monuments qui doivent être entretenus et restaurés dans un contexte de restrictions budgétaires. La priorité est donc donnée aux réparations ciblées, explique Marie Lavandier, la présidente du Centre des monuments nationaux.
On va ouvrir au public le donjon de la forteresse de Sals. On va ouvrir la tour du Moulin au château d'Angers. Ça, c'est vraiment une première de l'histoire touristique de ce château, avec une vue magnifique sur la ville. On restaure la tour de la Chaussée du palais Jacques Coeur à Bourges. Autour des tours, il y a aussi des travaux de sauvetage, en particulier sur la tour Saint-Nicolas à La Rochelle. Il y a des travaux très importants de consolidation. Et puis, quand il doit y avoir des actions de restauration, les penser dans l'ensemble de l'avenir d'un site de l'ensemble de l'avenir d'un monument. On travaille sur un schéma directeur à Carcassonne, à Rambouillet, au Mont-Saint-Michel, au Château d'If. Donc c'est quand on a des opérations pluriannuelles de long cours nécessaires à articuler avec l'évolution des usages du lieu.
Dans un contexte de baisse des budgets.
Dans un contexte de contraintes budgétaires majeures, on le sait, qu'il est possible de surmonter, d'accepter de réfléchir à des manières différentes de faire que ces 50 années d'investissement qui aboutissent à une fin de cycle où d'un seul coup il faut des centaines de millions de tous les côtés, et puis ne pas penser en opposition l'État, les collectivités locales, en opposition le patrimoine et l'art contemporain, les professionnels et les citoyens. Ça réclame au quotidien d'encore mieux travailler ensemble.
Des propos recueillis par Benoît Grosse. Le temps cet après-midi restera pluvieux avec des averses prévues sur la plupart des régions. Les températures maximales affichent 5 à 14 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Brice Garcia et Grégory Wallon à la technique.